Bonjour à tous. Je voudrais juste commencer par prier. Père, merci parce que tu es extraordinaire. Et Seigneur, plus on avance, plus on te cherche, plus on te trouve, plus on découvre combien tu es extraordinaire. Et même nos mots ne suffisent pas pour dire combien tu es extraordinaire. Et Père, je prie que ce matin, tu te révèles encore à nous. Tu viennes encore plus implanter qui tu es dans la profondeur de notre être. Et je prie que cela vienne transformer notre vie encore. Seigneur, toute notre vie, quand on marche avec toi, tu transformes notre vie. Tu changes les choses au fond de nous. Et je te prie ce matin, viens. Plante cette semence de la parole de Dieu profondément dans notre terre. Nous voulons l'accueillir, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, toi qui graves sur la table de nos cœurs la parole de Dieu. Nous t'accueillons ce matin. Merci. Amen. Alors, j'ai reçu comme thème les noms de Dieu, et j'avoue que je connais comme la culture basique d'un chrétien les noms de Dieu, mais j'avais jamais étudié les noms de Dieu. Et donc pour moi, ça a été l'occasion de creuser l'affaire. Et franchement, je suis nourri, renouvelé. J'ai vraiment été béni par cette préparation. Donc moi personnellement, je suis content. Après, quand je découvre l'étendue, le côté, c'est immense en fait. Hein. Derrière un nom de Dieu, c'est comme l'arbre dans la forêt. Derrière l'arbre, il y a encore plein d'arbres. Et je me dis, il n'y a pas qu'un message là-dedans, il y a au moins une dizaine de messages faciles. Mais bon, j'en ai qu'un, donc j'ai dû faire des choix. Hein. Je n'ai pas compressé tout, mais j'ai dû faire des choix. Alors, je voulais commencer par une petite remarque. Il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'elles semblent évidentes. Et on ne se les pose pas parce que c'est tellement évident qu'on ne pense même pas à se poser ces questions. Mais quand on se pose la question, on est surpris d'avoir du mal à y répondre. Alors j'ai une question ce matin pour vous qui va sembler évidente. Vous allez me dire, mais pourquoi tu la poses? Mais je voudrais vraiment vous inviter, après cette prédication, ce message, à vraiment chercher vos réponses. Cette question, la voici. Qui est Dieu pour vous? Qui priez-vous? Là, on est dans l'offensive de prière, donc on s'adresse à Dieu. Mais qui, quel Dieu priez-vous? Et c'est comme si Dieu, ce matin, nous disait, qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Quand j'étais jeune chrétien, on était dans un groupe de jeunes très dynamique, c'était passionnant, je découvrais Dieu et j'étais interpellé parce qu'il y avait une jeune fille musulmane qui s'approchait de Dieu. Et ce qui était surprenant, c'est qu'elle vous voyait Dieu. Et on sentait toute cette... Alors, elle était attirée par Dieu, par Jésus, mais en même temps, quand elle osait prier, elle vous voyait Dieu. Et on sentait cette distance. Ça fait vraiment bizarre, surtout dans notre milieu où on est quand même très, très à l'aise avec Dieu. Alors, bien sûr, je vais dire quelque chose ici, mais je pense que ça ne nous concerne pas trop. On peut être chrétien et ne pas vraiment connaître Dieu. Alors dans les autres églises, hein, bien sûr, hein, pas ici, pas à Clé. On peut être chrétien et Dieu reste pourtant lointain, mystérieux. Vous savez, Dieu avec un grand D, c'est un peu, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière le grand D. Et il y a Ésaïe qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Vous savez, quand Dieu dit ça, il y a une tristesse en fait dans sa voix. Et Jésus le reprend en disant « Mais vous êtes des hypocrites, vous vivez une religion, vous vivez tout un tas de folklore religieux, mais en fait, même si c'est sur vos lèvres, votre cœur est loin de moi. » Donc pour dire « C'est possible ». Alors Jésus lui-même a posé cette question à ses disciples. Ils avaient cheminé quand même à un certain moment. Et Jésus, à un moment, il coince ses disciples dans un coin. Et puis, il leur pose cette question. « Qui dites-vous que je suis ?» Alors ils répondent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, le brave Simon-Pierre, il se lance et il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Tu es heureux, Pierre. Tu es heureux, Pierre. Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas toi dans ta nature humaine qui a découvert cela, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et tu es heureux. » Et en préparant cette prédication, j'ai réalisé que dire qui est mon Dieu procède d'une révélation personnelle. Et qu'on peut très bien savoir plein de choses sur Dieu, savoir les noms de Dieu, mais ce n'est pas là-dedans. C'est peut-être dans ma tête, mais ce n'est pas dans mon cœur. Et ce qui est beau, c'est que cette révélation peut amener et va amener ce bonheur, cette joie. Tu es heureux, Pierre. Jésus, quand il a quitté le monde, il a dit « Le monde ne t'a pas connu. » C'est dans sa dernière prière au Père, Jean 17, et il dit « Le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et je le leur ferai connaître. » Alors ce matin, je veux simplement suivre cette ligne et vous poser cette question. Qui est Dieu pour vous ce matin? Quels sont les noms de votre Dieu? Pas ceux de votre voisin, pas ceux de l'Église et de la Bible, mais de votre Dieu à vous. Quels sont ces noms? Les noms pour lesquels Jésus vous dit « Tu es heureux ». Tu es heureuse de savoir cela. C'est le Père qui te l'a révélé. On peut dire « Dieu aime ». Une fois, j'écoutais un prédicateur et je trouvais tellement puissant, ça bouleversait les cœurs. J'ai plus son nom en tête. Et il disait un truc, mais trop, trop simple. Il disait « Dieu vous aime ». Mais quand il le disait, il y avait une électricité dans l'air, il y avait une puissance. Donc quand il disait ça, ça remuait le cœur. Il disait simplement « Dieu vous aime, Dieu t'aime ». Et je crois que quand quelque chose est révélé, quand nous disons « Dieu est bon », mais qu'on le sait, qu'on l'a vécu, que c'est quelque chose qui est dans notre cœur révélé, quand on le dit, il y a de la puissance. Quand on le dit, il y a une autorité, tant sur les gens qui nous écoutent que sur les atmosphères. Il y a une autorité qui se dégage de cela. Et je pense que tout l'enjeu de connaître les noms de Dieu est là. C'est de vivre qui est Dieu, de découvrir personnellement quels sont ses noms. Et du coup, quand je me mets à les prononcer, Dieu est bon, il y a une puissance qui se dégage de là. Une parole créatrice et un parfum. Alors les noms, j'y viens, les noms. Il y a des versets étonnants qui parlent du nom de Dieu. J'en cite quelques-uns là, vite fait. « Que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Psaume 8. « Son nom est grand en Israël. » Le nom de l'Éternel est une tour forte. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ça, c'est un des 10 commandements. Et puis, bien sûr, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, on est étonné parce que nous, en Occident, le nom, c'est bien, mais on n'en fait pas tout un plat. Et là, dans la Bible, vraiment, le nom, c'est très, très important. Alors j'ai une petite... Ouais, ça je l'ai déjà dit. Tu peux me passer la slide suivante, s'il te plaît? Non, après. Où est la liste là? Ouais, non, avant. La liste, voilà. Je pense, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, tout ça pour vous dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup de noms de Dieu dans la Bible. Elohim, par exemple, alors là c'est de l'hébreu, hein. Elohim, c'est un pluriel, mais qui est utilisé comme singulier. C'est le pluriel de Dieu, c'est Dieu avec un X, si vous voulez. Et c'est pour dire, bah, Dieu, il est tout. Toute la divinité est contenue en lui. Il n'y a pas plusieurs dieux côte à côte. Il est le Dieu suprême. On a El Olam. Alors les petits mots El, ça veut dire Dieu. Et les Cananéens, les peuples alentours aussi utilisaient ce petit mot El. Et Dieu se dit dans la Bible El Olam, Dieu d'éternité. Ou encore El Elyon, Dieu très haut. Atta El Roy, Dieu qui me voit. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Etc., etc. Et puis, on va le voir tout à l'heure. Il y en a un qui est spécial, qu'on n'arrive même pas à prononcer. Ça s'écrit YHWH. Et en fait, c'est un nom dont on a perdu les voyelles. Alors, on est bien embêté, on n'a que les consonnes. Alors, du coup, on dit Jéhovah. Mais alors, chez nous, ça craint de dire Jéhovah, ça fait témoin de Jéhovah. Mais c'est ça. Et dans nos Bibles protestantes, on a traduit ça par l'Éternel. Et puis, une fois qu'il y a ce nom-là, il y a plein de déclinaisons sur Yahvé, on peut dire Yahweh. C'est Yahweh Jiré, Dieu pourvoira, Yahweh Rapha, Dieu guérit, Yahweh Nissi, Dieu est ma bannière, etc., etc., etc. Je pense que, alors j'ai lu ça, il y a des chercheurs qui ont trouvé 40 titres, noms ou non-titres pour Dieu. 40, une quarantaine. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a autant de noms? Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions avec ces noms? Et donc juste avant de m'arrêter sur quelques noms, et rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la liste, je vais faire quelques remarques. D'abord, pour nous, dans notre pensée occidentale, le nom est essentiellement un identifiant. C'est quelque chose qui informe sur notre identité. Et c'est davantage comme une étiquette, un nom, un prénom. Il y a une notion un peu immobile, un peu statique dans un nom. Tac, étiquette, moi c'est Toine Litine, hop, suivant. En Asie, par exemple, donc mon papa, il vient du Vietnam, et en fait, il vient d'une ethnie au Nord-Vietnam. Il y en a à peu près 150, toute une mosaïque. Et là-bas, c'est pas pareil. Alors, mon père, quand il était tout bébé, il a reçu un nom qui a, dans la croyance de là-bas, une puissance spirituelle. Le nom, ils le choisissent moche pour faire fuir les mauvais esprits. Alors c'est étrange de chercher un nom moche pour son enfant, mais bon, c'est comme ça. Et puis, alors moi j'avoue, j'ai toujours pas compris, j'ai pas compris les choses, mais mon père a essayé de m'expliquer plusieurs fois, mais c'est que ce nom moche, eh bien ça devient le nom de la famille, c'est-à-dire le nom qu'on utilise dans le cercle familial. Voilà, donc c'est dommage parce que c'est pas très joli. Et après, quand il part à l'école, quand il va faire des études, tout ça, il a un nom administratif, un prénom administratif. Donc, selon le cercle dans lequel il évolue, eh bien, il y a différents prénoms. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de différent de chez nous. Nous, on a un nom, puis c'est fini, jusqu'à la mort. Dans la pensée biblique, c'est-à-dire le monde oriental, le nom, c'est beaucoup plus qu'une étiquette, qu'une information. Le nom contient un sens, et ce sens, eh bien, on attend qu'il se réalise. Soit c'est un sens qui se dégage des circonstances de naissance, ou alors un sens par rapport à une prière que la personne fait, ou alors carrément un lien avec sa destinée. Donc les lions, les noms, sont loin d'être juste sur un critère de beauté, etc. Mais il y a quelque chose dans le nom qui dit sur la vie de la personne. Et dans la pensée biblique, et pour les noms de Dieu en particulier, il y a vraiment cette relation intime entre le nom et la personne. C'est-à-dire que le nom révèle la personne. C'est-à-dire que le nom véhicule un peu de l'essence de la personne. Alors, je m'arrête là pour la philo. Donc, dans la Bible, on voit qu'il y a des noms de Dieu, et fait important, ces noms de Dieu ne sont pas des inventions des hommes, mais ces noms de Dieu sont des révélations de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui souvent dit « je suis un tel, je m'appelle comme ça ». Et donc ça montre que Dieu se révèle à travers ces noms. Et ça c'est beau, parce que le Dieu avec un grand D, quand on s'approche, on le découvre, et puis on découvre que c'est un Père, et on découvre qu'il s'appelle aussi Jésus-Christ, etc. Eh bien ce nom, ce Dieu, il se révèle. Il ne s'arrête pas seulement à Dieu avec un grand D ou Dieu Père, mais il précise les aspects de son cœur, des aspects de son être, il se dévoile. Et simplement, toute cette diversité des noms de Dieu, cette liste, montre que Dieu est une personne riche. Vous savez, des fois on dit d'une personne, elle gagne à être connue. Ben Dieu, c'est vraiment ça. Il gagne à être connu parce qu'il y a une telle richesse en lui, une telle diversité. Et dans un sens, il n'y a aucun nom qui peut le contenir. C'est pour ça qu'il en a peut-être plusieurs. Parce qu'il n'y a pas un nom qui est suffisant pour contenir tout ce qu'il a. Et il y a des personnes qui ont fait cette remarque, bah finalement Dieu a plein de noms, mais il n'en a aucun. Et c'est vrai que c'est que quand on sera avec lui, dans ce corps ressuscité, à la fin, qu'on pourra vraiment saisir pleinement qui est Dieu. Alors, pourquoi plusieurs noms ? Eh bien, je crois tout simplement que Dieu se révèle parce qu'il veut être connu. Il veut être connu. Et pour moi, finalement, c'est là le cœur de ce message et de ce qui m'a interpellé pour ce matin, c'est que Dieu veut être connu par nous. Il ne veut pas juste qu'on reste avec cette image de Dieu avec un D, ou Dieu même avec un papa. Il veut être connu dans tout ce qu'il est, dans plein d'aspects de sa vie. Il veut qu'on le connaisse. Et vous savez, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que Dieu veut, il veut être aimé. Et pour être aimé, il se laisse connaître. Et il y a une très belle expression biblique qui dit « Je te connais par ton nom. » J'ai fait connaître ton nom. Et quand on rentre vers Dieu, on s'approche de Dieu par ses noms, c'est Dieu lui-même qu'on trouve. Alors j'ai un petit témoignage. Et témoignage, souvenir marquant de ma jeunesse quand j'étais au collège. Alors des fois ma mère écoute mes prédications, parce que maintenant tout est sur internet, tout ça. Elle connaît pas cette histoire. Alors maman, si tu m'écoutes, ne t'offusque pas. Et je vais vous livrer donc quelque chose qui m'a troublé. Je devais avoir 12-13 ans, j'étais au collège. J'étais pas un bon élève, dans le sens que j'étais préoccupé par d'autres soucis. Et donc, en plus, moi, je suis, j'ai un côté asiatique assez fort. Du coup, je suis pas très expressif. Et y avait certaines personnes et certains profs avec qui je pense, je les mettais mal à l'aise. Bon, c'est comme ça, hein, des fois. Parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec quelqu'un et on n'arrive pas à le sonder, on n'arrive pas, ils ne s'expriment pas. Vous savez, c'est le mur asiatique, là. Et moi, là, je suis à fond d'ouverture. C'est-à-dire, je suis au maximum, là. Dieu a vraiment fait un travail énorme. Et quand j'étais ado, alors, c'était horrible, quoi. Les gens, ils allaient voir mes parents, mais il fait tout le temps la tête comme ça. Il est triste, il est... Non, non. Et donc... y avait une prof qui m'aimait pas bien, qui m'aimait pas. En fait, elle m'avait pris en grippe, et moi je savais pas pourquoi. Alors c'était l'histoire-géographie, et j'aimais pas cette matière, c'est vrai. Mais bon, il n'y avait pas de raison plus que ça, parce que je n'étais pas non plus perturbant comme élève. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que cette enseignante avait son propre fils dans la classe. Et son propre fils, bah, vous savez, ce n'est pas une situation facile, et il était un peu le souffre-douleur de la classe. Ah bon, bah, tristement, ça arrive, ces choses-là. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui a découpé son manteau avec un cutter. On était assis en classe, et puis, voilà, à la fin de la classe, il a découvert son manteau était coupé au cutter. Et là, ça m'est tombé dessus comme ça. Cette enseignante était persuadée que c'était moi, avec mon air faux, mon air fourbe, que c'était moi qui avais découpé son manteau. Et moi, je tombais des nues. Je tombais des nues. Parce que, bah, j'ai peut-être fait des bêtises, j'étais pas un ange, mais j'étais pas tordu comme ça. Et je suis pas méchant de nature. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir faire un truc par vengeance, etc. C'est totalement étranger de moi, ça. Et ça m'a choqué qu'on puisse penser du mal de moi, alors que ben, c'est vrai que j'étais pas son copain, mais je sais pas non plus. Enfin, il m'avait rien fait, quoi. Et ce qui m'a troublé, c'est que même ma mère a douté. Alors, je dis comment je l'ai vécu. Maman, si tu m'entends, je l'ai vécu comme ça. Mais c'est vrai que, bon, ça avait fait tout un ramdam, la prof en avait parlé, peut-être elle avait appelé mes parents, tout ça, et ma mère, elle m'a pris en quatre yeux, est-ce que tu as vraiment fait ça? Et je lui ai dit, mais non, maman, j'ai pas fait ça. Et j'ai senti, au moins je l'ai vécu comme ça, que elle a eu un petit doute. Et là, ça m'a fait vraiment bizarre. Et je me suis senti très seul. Parce que, à un moment, je me dis, mais je croyais être connu. Et je me suis senti inconnu. En plus, d'une personne si proche, ça fait très très bizarre. Alors, ça m'a pas traumatisé, hein, et ma maman m'aime beaucoup, donc il n'y a aucun souci, mais c'est juste pour dire que quand on ne connaît pas quelqu'un ou quand on se trompe sur quelqu'un, voilà ce que ça peut produire. Et Dieu, peut-être, est comme ça. J'imagine Dieu est. Il y a tellement d'aspects magnifiques de son cœur, et nous on passe à côté, ou on se fait des idées, ou on croit que. Mais en fait, Dieu n'est pas comme ça. Et ça touche. Et ça touche. Dieu révèle son nom. Il veut révéler son nom. Il veut être connu. Et il le fait quand on le cherche. Et là, il y a un bel exemple dans la Bible, c'est Moïse qui dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, je passerai devant toi. Et je proclamerai mon nom. Donc quand on le cherche, Dieu se laisse trouver, parce que c'est ça qu'il veut. Mais, moins drôle, Dieu révèle son nom aussi quand on est dans le désert, quand on est dans la tempête, quand on est submergé par quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait souffrir. Et souvent dans la Bible, c'est les endroits privilégiés pour Dieu de révéler qui il est. Parce que finalement, c'est dans ces moments-là où notre cœur désespéré, n'a plus qu'une seule personne vers qui se tourner, c'est Dieu. Et c'est là où on est le plus ouvert, et c'est là où on le reçoit le mieux. Alors bon, il n'y a pas que les tempêtes, il y a aussi quand on lui demande, mais il y a aussi les tempêtes. Alors les noms de Dieu, j'y viens, et je vous propose un premier, c'est Atta El Roy, c'est l'histoire d'Agar. Agar, alors je ne vais pas lire l'histoire, ça se trouve en Genèse 16, mais c'est Agar, la servante de Sarai, la femme d'Abraham. Donc ça se trouve dans le début de la Genèse. Et je vais juste vous raconter l'histoire, si vous voulez la lire, c'est en Genèse 16. C'est donc Dieu qui a fait plusieurs fois la promesse à Abraham qu'il aura un fils et il aura une grande descendance à travers ce fils. Et puis, Abraham, il voit rien. Et les années passent et sa femme est stérile. Et donc, il voit rien qui bouge. Et donc, à un moment, Sarah perd patience, et puis elle dit, mais écoute, j'ai un plan pour réaliser la promesse de Dieu, un plan B, c'est, j'ai une servante, une Égyptienne, je te la donne, prends-la comme concubine, et puis tu auras un enfant à travers elle. Et donc Agar est cette servante, et Agar va dans le lit d'Abraham, et puis elle tombe enceinte. Et là, quand elle se voit enceinte, elle se met à mépriser sa maîtresse, Sarah, et Sarah est hors d'elle, et donc elle se met à la battre, et là Agar s'enfuit dans le désert. Alors, ça c'est l'histoire. Et ce qui se passe, c'est que Dieu l'entend, c'est écrit comme ça dans le texte, et puis il vient la rencontrer sous la forme d'un ange, de l'ange de l'Éternel. Il la console, il la reprend parce qu'elle avait péché, parce qu'elle avait méprisé sa maîtresse, et puis il la remet sur les rails, quoi. Il la console, il lui donne des promesses magnifiques, et Agar revient vers sa maîtresse et s'humilie devant Sarah. Et quand Agar, à la fin de son entretien avec Dieu, avec cet ange, elle dit « Ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel du nom de Atta El Roy, « Toi, le Dieu qui me voit. » En fait, elle a vu Dieu, et donc elle appelle Dieu, le Dieu qui me voit. Il y a un deuxième épisode à cette histoire, c'est quelques années plus tard, son fils, dont elle était enceinte en premier, Ismaël, il est né, il a grandi, et puis le fils de la promesse, le fils que devaient avoir Abraham et Isaac, finalement arrive à la naissance, il s'appelle Isaac, et Ismaël, le fils de la servante, se met à se moquer de Isaac, le fils de Sarah. Là, encore une fois, Sarah pète les plombs, et elle se fâche très fort avec sa servante, et elle demande à Abraham de renvoyer la servante. Et donc, et là je trouve c'est dur dans le texte, on voit Abraham, alors il a le cœur brisé, on le sent, mais quand même c'est dur, il donne une outre d'eau, un peu de pain et son fils à Agar, et il dit ciao bye bye, tu peux partir, pars, va-t'en. Et là, c'est dur, hein, des fois. Hein, la Bible, on ferait ça, on irait en prison, il y aurait les services sociaux qui rappliqueraient direct, quoi. Et ce qui se passe, vous savez, une servante comme ça, elle n'a pas trop de repères, etc. C'est compliqué. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se perd dans le désert. À un moment, elle n'a plus d'eau. Et Agar, elle sent la mort venir. Alors, elle place son enfant sous un petit arbre. Et elle s'éloigne parce qu'elle dit « Je ne veux pas voir mon fils mourir. » Donc pour elle, c'est vraiment, vraiment la fin. Et elle attend la mort. Et là, encore une fois, ce Dieu qui s'était révélé à elle comme le Dieu qui me voit, il lui parle du ciel. Cette fois-ci, elle ne le voit pas. Il lui parle du ciel. Et quand il lui parle, il la console encore. Il lui dit « Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, ton fils aura une vie, une belle vie, etc. etc. » Et là, ce qui se passe, c'est marrant, le texte dit « Dieu lui ouvre les yeux. » Et elle se met à voir un puits, c'est-à-dire la solution à son problème présent. Et là, c'est intéressant de voir dans le texte, Agar, désespérée, ferme les yeux. Mais ce Dieu qui s'était révélé à elle comme le Dieu qui la voit, lui ouvre les yeux et elle se met à voir la solution à son problème. Et ce que je retire de cette première histoire, c'est qu'en fait, ce que Dieu est, il nous le donne. Ou il veut le déverser dans notre vie. Et ce Dieu qui voit donne à Sarah, à Agar, de voir à son tour. Ce que Dieu révèle de lui dans cette situation, il le déverse pour que Agar le vive et elle se mette à voir aussi. Et dans cette histoire, on voit que Dieu entend. Tout commence par Dieu entend. Nos prières, par exemple. Parfois aussi simplement le cri de notre cœur. Ce qui est d'autant plus beau, c'est que Agar, elle n'était même pas dans la promesse. Elle était le fruit du péché, le fruit de l'erreur de Sarah et d'Abraham. Et Dieu a béni Agar et Ismaël. Et ça, c'est puissant de voir que Dieu, par amour, bénit même le fruit de nos erreurs. Pas tout, bien sûr. Le Dieu qui me voit est celui qui me donne de voir. On a chanté tout à l'heure, et c'est Lynn, je crois, qui parlait de l'adoption plénière. Et en fait, c'est vrai que quand on est enfant de Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu nous donne son nom. C'est que son nom devient notre nom. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Et c'est comme si ce nom vient habiter en nous. Et ce nom vient reposer sur notre vie. Et finalement, c'est ce que Dieu est, vient dans notre vie. Et c'est là où je disais, on a besoin d'expérimenter les noms de Dieu pour pouvoir les vivre et les dire avec conviction. Est-ce qu'il y a un impact dans nos paroles? Un deuxième nom sur lequel je voulais m'arrêter, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Alors là, on le trouve dans Genèse 17, je crois que j'ai fait une slide pour ça. Genèse 17, je vais le lire. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, père éminent, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude de nations. » Et là, on voit, c'est la première occurrence dans la Bible de ce Dieu tout-puissant. Alors, dans un sens, on sait que Dieu est tout-puissant. Ah, c'est Dieu. Donc, on se doute bien qu'il est tout-puissant. Abraham, sûrement, le savait. Mais Dieu, ici, il veut le révéler à Abraham. Il veut que cette vérité transforme sa vie. Il veut qu'Abraham fasse l'expérience de sa toute-puissance. Et on a vu qu'Abraham, il avait essayé, par ce plan B avec sa servante, de réaliser lui-même sa promesse. Il avait vraiment essayé toutes ses forces, mais sa force n'a pas suffi. Et on voit que c'est Dieu, à un moment, qui veut mettre sa puissance dans la vie d'Abraham pour réaliser la destinée qu'il lui avait donnée. Et c'est un peu comme les disciples qui, où Jésus dit « Attendez à Jérusalem que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit vienne sur vous, et alors vous pourrez réaliser votre destinée. » C'est un peu cette même idée-là. La puissance qui vient dans la vie de Moïse. Avant, elle était comme extérieure, il était Dieu tout-puissant, mais à partir de ce moment-là, il y a une puissance qui vient bousculer la génétique même et qui vient produire ce miracle et ce surnaturel. Et moi, je trouve ça puissant de voir combien ces histoires finalement nous rejoignent. Moi, ça me rejoint. De me dire, mais c'est vrai que finalement, je lis la Bible, ou nous lisons la Bible, on lit plein de choses, mais quand on commence à vivre dans une situation précise ce que je lis, ça prend une toute autre saveur. Ça a un tout autre impact. Et du coup, quand je me mets à en parler, ça a aussi un autre impact. Et vous voyez qu'ici, la toute-puissance de Dieu ne vient pas juste changer quelques données dans la vie d'Abraham, mais c'est sa destinée entière. Parce que son nom, Abraham, devient Abraham. Alors, je disais tout à l'heure que Dieu se révèle tout particulièrement dans nos moments de tempête. Et je voudrais vraiment vous encourager, si c'est votre cas, si vous traversez un moment difficile et que vous ne voyez plus de solution, c'est le lieu privilégié dans la Bible où Dieu vient au secours, où Dieu vient aider, où Dieu vient apparaître, se manifester comme jamais. Et c'est là, ce sont des moments clés de notre vie en général. Et les moments de tempête, les moments de désert, les moments où vraiment on a l'impression de tout perdre, c'est là, en fait, où Dieu nous fait avancer. Et je voudrais vous encourager, si c'est votre cas, Ne regardez pas comme une destruction. Moi, quand j'ai traversé un moment de tempête dans ma vie, il y a, je sais plus maintenant, 5-6 ans, j'avais l'impression de tout perdre, sauf ma famille. Mais tout le reste, j'avais perdu. Eh bien, c'est vraiment là où Dieu a pu se révéler d'une manière, j'avais jamais connu Dieu avec une telle intensité. Et c'est là où, moi, j'avais des petits schémas, des petits dessins, et Dieu m'a montré une grande route. Et j'aime ce passage où on a l'impression d'être dans un désert, il n'y a pas de chemin, et puis d'un coup, il y a un chemin qui apparaît dans le désert. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Comme le puits pour Agar. Et Dieu fait vraiment ça. Est-ce que vous savez où El Shaddai apparaît le plus dans la Bible ? Dans le livre de Job. Et le livre de Job, c'est le livre par excellence de la tempête et du désert. Job perd tout, absolument tout. Pas parce qu'il est un mauvais chrétien, entre guillemets, mais c'est parce que le diable agit contre sa vie et Dieu permet qu'il perde tout. Sa santé, ses enfants, ses biens, tout. Il apparaît, je crois, 31 fois. Le mot El Shaddai dans le livre de Job. Dans la bouche des amis de Job, qui essaient de lui remonter le moral avec des conseils bien chrétiens. Et puis Job aussi parle du Dieu Tout-Puissant. Mais quand il en parle, c'est pas avec des louanges, c'est avec une souffrance. Et même par moments, il y a de l'ironie. Il y a de l'ironie. Il dit par exemple: c'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. C'est Job qui dit ça. Et on sent l'amertume. On sent la peine en lui. Il est en colère contre Dieu. Moi, j'étais en colère contre Dieu. On a le droit d'être en colère. Parce que Dieu veut un cœur vrai. Pas des cœurs religieux qui font un grand sourire. Il veut des cœurs vrais, authentiques devant lui. Et Job dit ça. Et pour lui, Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Il dit, tu es le Tout-Puissant, mais il n'est pas le Tout-Puissant dans sa vie. Il voit rien, il voit que la désolation dans sa propre vie. Pour lui, Dieu est plutôt le Très-Haut, très très loin, très très loin de lui. Et ce qui est puissant, j'ai été scotché quand j'ai réalisé ça, c'est qu'à la fin de l'histoire de Job, le chapitre 42, Job dit, tout à la fin, quand Dieu lui dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Et puis Dieu vient et lui parle avec puissance. Et là, Job est subjugué. Il y a révélation puissante de Dieu. Et Job est apaisé par rapport à ce qu'il a vécu. Et Job accepte, capitule devant Dieu. Et finalement, c'était ça qu'il avait besoin de vivre. Et Job dit, pour conclure, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que tu peux tout. Il l'avait appelé Tout-Puissant tout le long, mais à la fin, il dit, je comprends, tu es le Tout-Puissant. Aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Révélation. Révélation. Le Job, ce jour-là, il a rencontré le Tout-Puissant qui est venu dans sa vie. Il a capitulé devant lui, dans un cœur à cœur, un face à face. Et on voit, on connaît la suite de l'histoire. À partir de ce moment-là, sa vie est remontée. Dieu a béni puissamment la vie de Job. Dieu lui a rendu, même au-delà de ce qu'il avait avant, et l'a rendu profondément heureux. Parce qu'il s'est révélé. Et Dieu révèle ses noms pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous faire avancer. Et je dirais, au final, les moments de détresse m'apprennent que je n'ai rien d'autre que Dieu dans ma vie. Ma force, mes qualités, mes armes, mon intelligence, mes biens, mon argent, ma santé, ma famille, mes amis, tout cela, ce sont des bénédictions, mais jamais un appui pour bâtir ma vie. Jamais un appui pour bâtir ma vie. Et quand tout part, comme pour Job, alors là, je réalise qu'il ne reste que Dieu. Que Dieu. Et là, je comprends que Dieu est tout. Qu'en lui, il y a tout. Que tout ce que j'ai besoin vient de lui. Que tout ce qui me comble, tout ce qui fait ma joie, tout ce qui fait ma vie, que Dieu est ma force, Dieu est ma paix, Dieu est ma guérison, Dieu est ma joie, Dieu est ma bannière, Dieu est tout pour moi. Il est mon berger, il est tout pour moi. Et c'est quand je perds tout que j'y réalise qu'il est tout. Et vous voyez combien les noms de Dieu là sont précieux, parce qu'ils viennent me nourrir au plus profond de mes besoins. Et à partir de là, son nom vient sur ma vie. Et je deviens même comme lui. Dieu est amour. Et quand je le vis, son amour vient en moi. Je suis un fils. Et mon père s'appelle amour. Et je deviens amour à mon tour. Et j'aime. Et quand j'aime, il y a une puissance spirituelle qui agit. Parce que je manifeste le père. Parce que c'est son nom que j'ai connu et qui se manifeste à travers moi. Et c'est ça le fonctionnement des noms de Dieu. Et quand je dis Dieu est ma bannière, c'est un Dieu guerrier. C'est un Dieu qui va au combat et qui ne lâche pas. Vous savez, la bannière, tant qu'elle est élevée, le combat continue. C'est un Dieu de victoire qui dit « Dieu est ma bannière ». C'est un Dieu qui dit « J'ai la victoire jusqu'au bout ». Et quand je proclame « Dieu est ma bannière », dans mon combat « Dieu est ma bannière », ça veut dire « Je ne lâche pas ». Ça veut dire « Je reste debout parce que je vois Jésus-Christ élevé à la croix ». Je vois lui ma bannière, le rejeton d'Isaïe qui est élevé. Et ça me donne une force. Une puissance spirituelle. C'est l'enfant de Dieu qui se lève, qui s'appuie sur les noms de Dieu. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle m'a tellement percuté. Quand je faisais mes études de théologie, j'avais un prof de théologie magnifique. Un puits de science, des perles dans sa bouche, Paul Wells. Mais cet homme avait vécu un moment de dépression. Et quand il est revenu, il nous a partagé un peu ses moments difficiles. Et il a dit une phrase qui m'a percuté. Il m'a dit « J'ai compris qu'il n'y a que Jésus-Christ ». Et pour un homme, un théologien, qui a tant de doctrines, tant de connaissances, et qui est capable d'avoir cette humilité, d'avoir vu qu'il n'y a que Jésus-Christ. J'ai trouvé ça tellement puissant. Et je crois qu'on a besoin de voir qui est Dieu. On a besoin de le connaître, lui. Et ses noms donnent cela. Alors, je vais passer rapidement sur la suite. Parce que comme je vous dis, il y aurait 10 prédications faciles. La révélation de Dieu est progressive dans la Bible. Pour dire Dieu, il se dévoile, il laisse un suspense, mais il se dévoile. Et en fait, ça ne s'arrête pas. On pourrait croire qu'au bout de 4, 5, 6 noms, ça s'arrête, mais en fait, non. Et à un moment, il y a une clé, la révélation ultime de Dieu dans l'Ancien Testament se trouve dans ces quatre lettres, Yod-He-Vav-He, Yahweh, Jéhovah. Et c'est, on trouve ça en Exode 3, 14. Moïse dit à Dieu, c'est l'appel de Moïse, quand Dieu appelle Moïse à aller en Égypte. Et donc Moïse, il essaie de convaincre Dieu que ce n'est pas un bon choix. Et Moïse dit à Dieu, si je vais vers les fils d'Israël et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et qu'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé. Je suis, c'est Yod-He-Vav-He, Yahweh. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est là mon nom pour l'éternité. Et puis un peu plus loin, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je n'ai pas été connu de par mon nom Yahweh. Donc on voit qu'il y a un degré supplémentaire de révélation, et c'est ces quatre lettres qui étaient considérées par les juifs tellement saints qu'ils ne voulaient même pas le prononcer. C'est-à-dire que quand ils lisaient la Torah, quand ils tombaient sur Yod-He-Vav-He, ils disaient Adonai, qui veut dire Seigneur en hébreu. Et c'est pour ça qu'à cause de ça, on a perdu les voyelles. Et Yahweh, c'est vraiment le nom révélé intime de Dieu comme une personne. Jusqu'à présent, on utilisait « elle » comme les autres peuples environnants qui parlaient de « elle ». Et donc les Hébreux avaient leur El à eux, le El Shaddai, le El Olam, etc. Et là, Dieu va un cran plus loin et dit « Je suis Yahweh ». Et quand Dieu se révèle comme ça, il révèle sa personne intime. Et il montre par là à son peuple qu'il veut vraiment une relation intime, personnelle, avec chacun. Alors on pourrait dire plein de choses sur le « je suis ». Il est assez mystérieux ce « je suis ». Mais je voudrais juste vous dire ça parce que Jésus l'a repris. Jésus l'a repris. Qui dites-vous que je suis ? Il y a un passage, je vais le lire en Jean 8. Jésus qui parle aux Juifs. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors les Juifs lui disent, t'as pas encore 50 ans et t'as vu Abraham ? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, dans la tête d'un juif qui connaît la loi, ça fait tilt. Et là, ce qu'ils font, ils prennent des pierres et ils le lapident. Ils veulent le lapider. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et là, on voit bien qu'ils comprennent tout à fait que Jésus s'est identifié à ce Yahweh si saint, si révéré, qu'on n'osait même pas prononcer son nom. Et Jésus ose affirmer qu'il est ce « je suis ». Et Jésus va faire comme l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, à partir du moment où Yahweh a été révélé, il y a eu plein de déclinaisons de Yahweh. Yahweh Jireh, le Seigneur pourvoira. Yahweh Nissi, le Seigneur ma bannière. Il y en a tout plein comme ça. Et Jésus, il fait pareil. Et dans Jean, l'évangile de Jean, on a comme ça sept « je suis » qui se succèdent. « Je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Et il y en a sept. Alors, on va pas trop faire la cabalistique avec les nombres, mais pour moi, ça veut simplement dire Jésus est la plénitude de Dieu. Jésus est pleinement Dieu et lui, il porte, il révèle et pousse encore plus loin les noms de Dieu, la révélation de Dieu. Alors je vous dis ça juste pour attiser votre curiosité et vous encourager à chercher cela dans votre Bible. Et je vais simplement terminer avec cette idée que prier, finalement, c'est intimement lié, parce qu'on est dans l'offensive de prière, donc il faut bien que je le raccroche à la prière, c'est intimement lié à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est ces moments de face à face avec lui où l'intimité se bâtit. Et vous savez, quand on invoque le nom de Dieu, l'atmosphère est impactée. Il y a un magnifique verset dans Cantique 1:3 qui dit « Ton nom même exhale comme un parfum ». En Apocalypse, devant le trône de Dieu, il y a des anges qui crient jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Ésaïe, dans sa vision, en Ésaïe 6, quand il a une vision du trône de Dieu, il voit des êtres qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le nom de Dieu est proclamé devant la présence de Dieu. Alors, proclamer le nom de Dieu, prier le nom de Dieu, invoquer le nom de Dieu sur nos situations, sur nos montagnes, sur nos amis pour qui nous prions, c'est une atmosphère qui est impactée. Comme cet encens qui monte vers le trône de Dieu, qui représente la prière des saints. Les noms de Dieu contiennent une autorité à invoquer. Voilà, plus on connaît Dieu et plus on l'aime. Et le Dieu que je connais est celui que je rencontre dans mon expérience. C'est celui qui touche et transforme ma vie. Dieu veut se révéler. Dieu veut être connu par nous. Dieu veut nous faire connaître ses noms intimement dans notre vécu aujourd'hui. Alors je vous suggère juste, pour aller plus loin ce message, c'est déjà d'étudier les noms dans la parole. C'est assez facile, vous tapez sur Internet, nom de Dieu, il y a plein de trucs qui sortent. Je vous suggère aussi, c'est de vraiment utiliser les noms dans la prière, dans la proclamation. Et puis, un petit exercice perso, c'est faites le point en vous-même et essayez de répondre à cette question. Qui est Dieu pour vous? Et de dire des noms, même qui ne sont pas forcément dans la Bible, mais Dieu, tu es ma consolation. Dieu, tu es... voilà, plein de choses. Et de dire qui il est pour vous et de dire pourquoi. Quelles sont les situations qui vous font dire que Dieu est comme cela. Et vous pouvez remercier Dieu pour cela et même le partager à d'autres. Voilà. Amen.